France Culture.
Les midis de culture, ça continue. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec le réalisateur palestinien Arab Nasser. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier du Point Culture.
Bonjour Marie et bonjour à tous. S'il y a une forme qui domine les festivals depuis plusieurs années, c'est bien celle de la conférence performée. Vous savez, ces seuls en scène d'artistes, alors que ce soit des écrivains, comédiens, danseurs ou plasticiens, qui adressent au public des textes sans autre fioriture ni mise en scène. Forme mobile et économique, elle est plébiscitée par les programmateurs et par le public. Emmanuelle Pirère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, vous enseignez l'écriture de création à la Aide à Genève et vous venez de faire paraître aux Presses du Réel un ouvrage qui s'intitule « La performance narrative, art, littérature, scène ». Alors pour commencer cet entretien, comment définiriez-vous performance narrative ? Quel champ de création cela concerne ?
Alors au départ, on a appelé ce champ de création la conférence performance. Il s'agissait de conférences qui avaient lieu plutôt dans le champ de l'art ou des artistes. Un artiste vient sur scène, parle au public et dans sa conférence performance, il insère d'autres médiums, par exemple un dessin qu'il fait en live, une chanson, un peu de danse, des objets qu'il montre, des images, des vidéos, etc. Moi-même, je l'ai appelé performance narrative parce que je pars du champ de la littérature où j'exerce et je me suis aperçue aussi que par ailleurs, peu à peu, les années passant, il y avait de plus en plus d'artistes et d'auteurs et d'autrices qui racontaient des histoires en fait sur scène. Et ça m'a paru quelque chose d'intéressant, de nouveau, sachant que le conte est un peu désuet, donc j'avais l'impression de voir apparaître des néo-conteurs, voilà, qui est un phénomène que j'ai trouvé intéressant à montrer.
Alors, quand vous en parlez, on entend bien que cette performance narrative, elle est à l'orée de plusieurs disciplines. Vous parlez de la littérature, en effet, vous en venez, mais évidemment, on voit ça aussi beaucoup sur les scènes de théâtre, et ce, depuis longtemps. De quand vous datez ce geste-là, et puis comment il évolue dans le temps ?
Dans le champ artistique européen, francophone, le performeur qui a été vraiment important, c'est Éric Duquerc, un performeur, un artiste belge. Et puis, il y a aussi, à la fin des années 90, le performeur Xavier Leroy, qui est plutôt du champ de la danse, qui a fait une performance très intéressante qui s'appelle « Produit de circonstances », où il montre quel est son rapport au corps. Donc, il fait une conférence, il parle au public, il s'adresse. Ça, c'est une chose importante. Et puis, il parle du rapport au corps qu'il a eu dans ces années-là. Un rapport double. À la fois, il était thésard en biologie. Il faisait des études sur le cancer du sein. Et en même temps, il commençait à faire de la danse, un peu tardivement, puisqu'il avait la vingtaine passée. Et dans cette conférence, il fait des démonstrations de danse. Donc, c'est assez drôle parce qu'il est à la fois, il parle au public, il fait sa conférence de manière très sérieuse. Et puis, tout d'un coup, il va se mettre au milieu du plateau. Et puis, il fait des mouvements de danse. Voilà. Donc ensuite, cette chose s'est développée surtout en art contemporain, mais aussi a été développée aussi par des auteurs de littérature et puis sur scène par des danseurs, des metteurs en scène, des comédiens et comédiennes. Et puis, si on revient dans l'histoire, en fait, on peut faire remonter ce genre à la performance américaine. En fait, c'est souvent le cas. Dans les années 60-70, la performance s'est développée aux États-Unis, surtout avec le corps, mais parfois aussi sous l'influence de l'art conceptuel avec le langage. Voilà. Donc, la performance narrative, pour moi, c'est toujours une performance qui a lieu autour de la parole, en fait. C'est de la parole qui est vraiment la chose centrale. Et puis moi-même, je l'ai fait remonter aussi encore un peu plus loin aux avant-gardes européennes, aux futuristes, à Dada, aux surréalistes, qui ont développé aussi beaucoup de formes de spectacle, de performance avec le public qui intervenait beaucoup et qui était lié à la parole parce qu'il y avait beaucoup d'écrivaines, d'écrivains dans ces mouvements-là.
Alors, puisque vous parlez des écrivains, est-ce qu'il y a aujourd'hui, plus qu'avant peut-être, une volonté pour les auteurs et les autrices de s'échapper du livre ?
Alors, je ne sais pas si au départ c'est une volonté qui est venue d'elles et eux. En fait, on a parlé assez récemment d'un tournant festivalier de la littérature. Oui. Il se trouve que lorsqu'on sort un livre, on est de plus en plus invité à parler de ce livre en public, soit dans des rencontres pour parler du livre simplement, soit pour lire des passages du livre. Donc ceci a eu pour conséquence le développement de lectures, de performances littéraires, parfois simplement des lectures du livre avec de la musique, mais certaines autrices et auteurs ont pris ces invitations à bras-le-corps pour fabriquer des formes qui sont vraiment adressées au public. C'est-à-dire que, pour moi c'était le cas en fait, quand j'ai commencé à faire des performances conférences ou performances narratives, je faisais une poésie qui était très dense, très compacte, qui n'était pas du tout faite pour l'oralité. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai essayé quelquefois de lire ces poèmes en public, mais ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, à un moment donné, j'ai pris ces invitations au sérieux en me disant, mais qu'est-ce que je vais raconter au public? Et je me suis mise à faire plutôt des conférences. Donc, un certain nombre d'auteurs, par exemple, on peut citer Elena Vilovitch, Olivia Rosenthal, Jean-Charles Massera, Camille de Toledo, elle-même Alice Zeniter aussi, qui a fait un seul en scène sur la narratologie et le féminisme. Elle tient une heure avec ces sujets-là. Ces auteurs-là se sont mis proposer des formes vraiment adressées au public. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, ces performances littéraires sont extrêmement programmées. Enfin, il n'y a aucune difficulté pour ça. La Maison de la Poésie de Paris en montre beaucoup, par exemple, mais aussi dans tous les festivals du livre, l'Escale du Livre de Bordeaux, les Correspondances de Manosque, les nouveaux festivals Olé Beaujour à Marseille, par exemple.
Oui, puis il y a des festivals quasiment dédiés. Hein. Je pense au festival Extra, par exemple, au Centre
Extra,
Pompidou, qui est vraiment... La programmation est centrée autour de ce genre de performance.
Exactement. Ouais, la littérature hors du livre a vraiment son festival. Donc, c'est vraiment une forme tout à fait institutionnalisée. Mais étrangement, j'ai remarqué que la critique littéraire s'en emparait très peu, en fait.
Parce qu'on n'a pas les armes pour
recherche. Ben, je crois, oui. Alors, c'est assez étrange. Je pense que le livre est vraiment le produit central, en fait. Enfin, c'est l'œuvre centrale. Et puis, ces performances sont vues un peu comme des produits dérivés qu'on aime bien avoir, parce que c'est assez ludique aussi. On aime bien voir, c'est un peu plus spectaculaire. On aime bien voir les auteurs et les autrices lire ou dire des textes. Mais il n'y a pas vraiment de place dans la critique pour prendre en charge ces formes-là. Ben, c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre.
Mais Emmanuel Pereire, est-ce que c'est pas aussi un symptôme de la crise budgétaire de la culture? Ce sont souvent des petites formes, donc des formes qui ne coûtent pas cher. Est-ce que ça explique pas aussi le succès de ces conférences performances narratives?
Oui, tout à fait. Alors, pour les auteurs et les autrices qui souvent gagnent assez peu de droits d'auteur, ce sont des formes qui, quand on les fait sur scène, sont rémunérées. Donc, c'est plutôt intéressant. Du côté du spectacle, où on trouve aussi ces performances-là, donc par exemple en danse ou en art de la scène, du théâtre, on dit qu'en effet, ce sont des formes qui sont économiques, oui, qui sont presque un peu tristes pour les personnes qui font du spectacle vivant.
Oui, parce que souvent, il n'y a pas de scénographie, il y a vraiment une personne en scène qui va en effet adresser un texte à un public.
Exactement. Mais en fait, ça fait partie de l'esthétique de cette forme. En fait, c'est une forme qui n'est pas du tout surplombante. C'est une forme qui est, on pourrait dire, intermédiale, c'est-à-dire que tout artiste de n'importe quel champ artistique peut faire venir dans sa performance d'autres médiums qui ne sont pas les siens au départ, en fait, de la chanson, de la danse. Et ces formes-là sont pratiquées de manière non professionnelle et non spectaculaire, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette forme-là, qui est à échelle humaine, en quelque sorte. Voilà, la chanson, par exemple, n'est jamais chantée avec beaucoup de maestria, mais plutôt de manière un peu en dessous, quoi. Voilà, de manière sensible et délicate.
Et c'est ce qui rend ces performances narratives très contemporaines. Merci beaucoup, Emmanuel Pereire. Je rappelle que votre ouvrage qui vient de paraître aux presses du Réel s'intitule « La performance narrative ». On le reconnaît bien parce qu'il est tout rose, un grand livre rose.
Oui.
Merci beaucoup.
En effet. Merci à vous.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la foire Art Basel s'en est bien sortie dans un contexte économique en berne.
Oui, après 6 jours de ventes et de rencontres, la célèbre foire d'art moderne et contemporain s'est terminée dimanche à Bâle avec 88 000 visiteurs, soit un peu moins que l'année dernière. La période d'incertitude économique liée aux tensions mondiales avait fait craindre une édition terne. Le marché de l'art mondial avait reculé de 12% l'an dernier. Les 289 galeries présentes semblent avoir malgré tout conclu des ventes, et ce parfois impressionnantes. Une toile de David Hockney, par exemple, a été vendue plus de 13 millions de dollars et un tableau de Gerhard Richter, 6,8 millions de dollars.
Et pour finir, Marie, Carnac, en Bretagne, je précise, pourrait être classé au patrimoine mondial de l'humanité.
Mi-juillet, nous saurons si ces mégalithes du Néolithique constitueront le premier site breton à intégrer le classement de l'UNESCO. Le parrain de la candidature, Jean-Yves Le Drian, explique que c'est un symbole de la Bretagne qui inspire le mystère et le silence. C'est donc a priori une aubaine pour la région, mais tous ne sont pas aussi enthousiastes. Certains voient une candidature en faveur de l'économie du tourisme plus que pour la préservation du patrimoine. Le Monde rapporte par exemple qu'un membre du comité scientifique estime que les archéologues ont été peu écoutés. La candidature comprend en effet 550 sites dont certains sont mal préservés, alors que de l'argent public est déjà investi dans des parkings ou des travaux routiers pour mieux accéder au site principal.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain.